Paris Culture, présenté par Quentin Perquis, un samedi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris.
Bonjour, bienvenue, nous sommes le samedi 11 novembre, on commémore aujourd'hui la signature de l'armistice de 1918, actant la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale. Vous écoutez Paris Culture, le week-end a commencé, c'est bon ça, et c'est l'occasion de connaître les bons plans du week-end. Aujourd'hui, dans la rencontre, on reçoit, j'en suis très honoré, Thury. Dans la chronique musique, on rencontre Bruno Laforesterie, également il est l'initiateur du hip-hop symphonique. Côté sortie, je vous emmène voir le nouveau spectacle Délire au Cirque d'Hiver Bouglione. On rencontre justement Joseph Bouglione et Cassie Audifrin. Enfin, on parlera théâtre et sorties ciné avec les dernières nouveautés. Pour suivre en temps réel les actus de l'émission, tout se passe sur mon Insta, Quentin-du-bas Perquis avec un S. Tout de suite, si vous êtes en tout cas dans les transports franciliens, voici l'état du trafic en temps réel sur les lignes de la RATP. Sur les lignes de la RATP, plusieurs métros sont perturbés. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6 et le 12 également. Sachez qu'en tout cas, si vous êtes sur la ligne 1, l'accès à la station Charles de Gaulle Étoile sont fermés. Les correspondances dans la station sont impossibles. Bien évidemment, c'est à cause de la cérémonie dont on parlait à l'instant. Également dans le métro numéro 2, les accès à la station Charles de Gaulle Étoile également sont fermés pour la même raison. Le numéro 3, dans le métro numéro 3, jusqu'au 11, donc jusqu'à aujourd'hui, les accès à la station Bourse sont fermés en raison de mesures de sécurité. Pas plus de détails sur la ligne numéro 4. Si vous avez l'habitude de voyager dans cette ligne, normalement vous êtes au courant parce qu'on nous le dit très régulièrement. Jusqu'à demain, le trafic est interrompu porte d'Orléans, entre porte d'Orléans et Bagneux-Lissy-Aubrac, en raison de travaux. Bien sûr, il y a des bus de remplacement, ça c'est bon à savoir également. Sur le métro numéro 5, le trafic est perturbé jusqu'au 17 avril prochain, la station Gare d'Austerlitz n'est pas desservie en raison de travaux. Et puis sur le métro numéro 6, sachez que également, voilà, au niveau de la station Charles de Gaulle Étoile, c'est fermé à cause de la cérémonie. Les stations et surtout les correspondances dans la station sont impossibles. Et puis également jusqu'au 4 février, les trains ne marquent pas l'arrêt à la station Bir Hakeim, fermée pour travaux. Et puis j'oublie pas le numéro 12, le métro numéro 12, puisque le trafic reprend mais reste perturbé sur l'ensemble de la ligne en raison de personnes sur les voies à porte de Versailles. Voilà un petit peu pour plus de détails si vous voulez, en tout cas laisser des détails ici, vous pouvez les suivre en temps réel sur l'application Bonjour RATP ou également sur le site internet ratp.fr/infotrafic. Juste avant de parler des sorties ciné, on revient ensemble sur une actu de la semaine, une actualité qui n'a pas fait la une, mais qui a toute son importance. Écoutez. Côté téléphonie mobile, la couverture intégrale de la France n'est toujours pas atteinte en 2023. La situation est clairement en train de s'améliorer, ça oui, mais c'est pas encore parfait. À l'heure de la 5G, comment peut-on imaginer que certaines zones géographiques soient encore en edge, vous savez, ce petit E là qui est en haut de votre téléphone et qui est bien désagréable. Dans le Finistère, il faut savoir qu'un habitant sur deux n'a pas accès au très haut débit. La fibre, elle est toujours en cours de déploiement. 86% des foyers français sont aujourd'hui raccordés, mais les raccordements ont chuté ces derniers mois, selon l'AVICA, l'association de collectivités engagées sur le numérique. BFM TV l'a annoncé, je cite, l'autorité de régulation des télécoms, donc l'ARCEP, a infligé ce mercredi 8 novembre, donc mercredi dernier, là, une amende de 26 millions d'euros à l'opérateur Orange en raison du non-respect de ses engagements dans le déploiement de la fibre dans toutes les zones moyennement denses du territoire, appelées les zones AMI. Fin de citation. Tout récemment, Orange s'engage envers l'État dans l'optique, sans jeu de mots, de déployer la fibre dans 1,5 millions de foyers d'ici 2 ans. Ce pari sera-t-il tenu? En effet, cela engage forcément de très très gros investissements. Mais la société Orange ne devrait pas être la seule à porter cette volonté. Ce combat devrait être généralisé. Par exemple, l'État annonce un dispositif permettant à la Caisse des impôts d'investir pour les raccordements dans le domaine public. Alors vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir sur X, anciennement Twitter, avec l'hashtag Radio Paris Culture RCP. Puis si surtout vous voulez maintenant partir en week-end, sortir ce week-end ou dans les jours qui sont à venir, voici la sortie signée. À l'affiche des films sortis cette semaine, le biopic et drame L'Abbé Pierre, une vie de combat, sorti ce mercredi 8 novembre. 2h18 durant lesquelles on retrouve Benjamin Laverne, Emmanuel Berco ou encore Michel Villermoz dans ce film de Frédéric Tellier. Henri Grouet, né dans une famille aisée, a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abri, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l'Assemblée nationale au bidonville de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d'Emmaüs et le raz-de-marée de son inoubliable appel de l'hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté lui-même de son action. Ses fragilités, ses souffrances, sa vie intime, à peine crédibles, sont restées inconnues du grand public. Révolté par la misère et les injustices, souvent critiquées, parfois trahi, Henri Grouet a eu 1000 vies et a été même et mené 1000 combats. Il a marqué l'histoire sous le nom qu'il s'était choisi, l'abbé Pierre. Voici un extrait de la bande-annonce du film.
Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont: as-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver? Viens, on t'attendait.
Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur.
Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature.
Ce que vous faites, c'est très bien. Mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne.
Les critiques sont très bonnes. Le Parisien, il dit que c'est un grand film d'aventure, une fresque romanesque et épique et le portrait de l'une des personnalités les plus emblématiques du XXe siècle. Les Échos ajoutent, je cite, « Malgré ses insistances, ce film honore le genre de la biographie filmée. » Fin de citation. Benjamin Laverne s'est exprimé, lui, dans C'est à vous, en mai dernier. Il évoque ce rôle intimidant.
Mais très vite, la peur laisse place à l'enthousiasme et à la joie, à la fierté immense d'incarner ce personnage tellement inspirant. Et en fait, on est très vite au travail et en effet, la pression, ça donne énormément d'énergie. Et de dire les mots de l'abbé Pierre, ça donne une émotion folle, donc ça aide beaucoup.
Il ajoute également le défi physique de l'incarnation de ce grand personnage.
Je n'ai pas du tout sa morphologie, c'est une catastrophe. J'ai un coup de girafe, lui il était vraiment petit. Je fais 20 cm de plus que lui et surtout je suis jeune et je ne l'ai connu que vieux, ce monsieur. Et on a oublié qu'il a une jeunesse et qu'il a fait déjà, dès l'adolescence, des miracles. Il a été 8 ans capucin, il a été résistant, il a sauvé des juifs à 3000 mètres d'altitude pour les faire passer en Suisse.
Il a été député.
Il a fait l'appel de 54 qui a mené à l'insurrection de la bonté. Mais c'est vrai que moi je connaissais très peu de choses de lui. Donc. En effet, il y a 9 stades de vieillissement, c'est un peu du délire, mais c'était aussi très amusant.
L'abbé Pierre, une vie de combat, un film de Frédéric Tellier, actuellement dans les salles. Tout de suite sur Radio Campus Paris, on s'écoute Teardrops, un remix The Rules, Womack et Womack.
Crazy chain. That's time I'll be true. I'll be
Womack Womack sur Radio Campus Paris. Il est 18h12 et puis tout de suite, voici la météo. Alors, je vais l'enchaîner directement cette météo et elle s'annonce très, très, très pluvieuse pour toute la semaine. J'en suis désolé. Franchement, je viens de regarder la météo. C'est de la pluie pendant une semaine entière. Les températures, elles restent stables. 13 degrés à 14 degrés, maximum 15 degrés pour mercredi. Mais en tout cas, demain, ce sera de la pluie toute la journée. Voilà, pour les minimales, 12 degrés le dimanche, 11 degrés lundi, vous voyez, ça reste vraiment très stable. Et fin de semaine, ça se rafraîchit en tout cas dans la nuit. 7 degrés jeudi, 6 degrés vendredi et 8 degrés samedi prochain. Alors moi, j'avais envie de vous donner envie. Je vais leur dire que je pars à Bordeaux la semaine prochaine, ce qui est vrai. En fait, c'est la même météo. Donc, je prendrai le même parapluie que vous. Tout de suite, en tout cas, toutes ces prévisions-là, elles sont disponibles sur météofrance.com. Et tout de suite, voici la chronique musique. Le jeudi 2 novembre dernier s'est déroulée la 8e édition du très bel événement hip-hop symphonique. À cette occasion, une poignée de titres emblématiques sont arrangés et joués en direct par l'orchestre philharmonique de Radio France et The Ice Cream avec la complicité de Move. Parmi les élus, on retrouve Kaina Samer, Ronisia, Taïk et Turi sous la direction artistique de Issam Krimi. Le 14 octobre, je vous invitais vivement, et je vous ai même vivement conseillé de vous inscrire au tirage au sort pour assister à ce show grandiose. J'espère que vous avez eu la chance de vous y rendre. Alors que ce soit votre cas ou non, j'ai rencontré pour vous Bruno Laforesterie, l'initiateur de ce projet. Bonjour Bruno Laforesterie, merci.
Bonjour, bonjour à vous.
Vous êtes donc à l'initiative d'un projet titanesque et grandiose, c'est vrai, qui est celui donc de hip-hop symphonique. Comment vous est venue cette idée de vouloir réunir l'orchestre philharmonique de Radio France et des artistes de la scène hip-hop? Pourquoi ce choix?
Il y a 9 ans maintenant, je prenais la direction de la radio Move, qui est une des radios de Radio France. Et évidemment, pour le positionnement musical de Move que j'ai relancé était autour du hip-hop et des cultures urbaines et des musiques urbaines au sens large. Et donc, il y avait un enjeu sur le live. On a commencé à jouer et à proposer aux artistes de rap de jouer avec un band musical, un peu dans la traduction qu'on trouve aux États-Unis, pour avoir du groove. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait 400 musiciens à plein temps à Radio France, 4 formations, dont 2 grands orchestres, je me suis dit, ça serait quand même fou de ne pas essayer de faire le lien entre ce qu'on faisait déjà à Move et les orchestres. Et de cette idée est née de faire le lien entre les deux. Il y a eu un intérêt de la part de l'orchestre. Et évidemment, on savait que les artistes seraient très contents et on s'est dit que pourquoi pas, l'idée est folle, mais on va le faire.
Et vous avez relevé le défi. Tout comme le yin et le yang, vraiment, je trouve que vous proposez un show donc inédit parce que vous associez, vous l'avez dit à l'instant, deux mondes qui, au premier regard, tout opposent. Mais en réalité, si on creuse un peu, ils forment une symbiose parfaite. Et c'est un défi chaque saison parce que c'est la 8e.
À première vue, on pourrait croire que ces deux mondes sont effectivement le noir et le blanc, le yin et le yang, comme vous le dites. Mais en fait, quand on connaît l'esthétique et le rap et la musique comme elle est produite, c'est une musique faite de sampling. Et il y a beaucoup de morceaux qui sont samplés depuis la musique classique ou du jazz ou de la variété. Et donc, il y a une culture, je pense, musicale, notamment chez les producteurs de hip-hop et chez les artistes, d'aller chercher et donc de faire ces rencontres musicales. Et ensuite, le défi chaque année, c'est bien entendu de les convaincre de venir. Mais pour être très clair, la première année, on s'est un peu lancé dans le vide en disant est-ce que ne serait-ce que la formule va prendre, parce qu'entre une idée sur le papier et la réalité des choses, il y a surtout qu'il y avait des grosses difficultés techniques, parce que c'est pas uniquement un orchestre avec des interprètes qui viennent devant, ce qui peut arriver, mais c'est aussi un groupe qui s'appelle le Ice Cream Band, qui est du groove avec des saxos, avec une batterie, et l'idée même de mettre une batterie au milieu d'un orchestre, c'était complètement fou. Et on s'est rendu compte que techniquement c'était un obstacle qu'on a surmonté les années suivantes, parce qu'on a installé, vous le verrez ce soir, on a installé la batterie à l'étage, et donc on a constitué en fait un spectacle en 3 dimensions. Donc il y a eu des défis techniques et ensuite des défis artistiques, et aujourd'hui c'est entré dans les murs parce qu'on a presque 80 millions de vidéos vues, et je pense que tous les artistes de hip-hop ont vu l'hip-hop symphonique, et beaucoup se disent pourquoi pas, ils se projettent dans le projet, et on est très honorés de le recevoir et aussi sont contents de venir.
La dimension pluriculturelle est folle. Quel message se cache derrière le hip-hop symphonique réellement?
Le message, c'est un message d'harmonie, parce que c'est vrai que le rap, pour plein de raisons historiques, s'est construit de manière indépendante, un peu en dehors de l'industrie, en dehors du on va dire souvent du milieu culturel français. Et aujourd'hui, c'est la musique préférée des Français, pas que des jeunes, la plus populaire. Et c'est aussi une musique qui porte des messages qu'on apprécie ou pas, mais qui sont des messages important. Et aujourd'hui, nous, c'est vraiment l'enjeu, pas que de l'image, c'est-à-dire aujourd'hui tout est possible et qu'on se rend compte finalement que tout le monde a du plaisir à travailler ensemble. Et quand on déconstruit ces barrières symboliques, on se dit qu'on a fait un peu, on met sa pierre à l'édifice de la déconstruction des imaginaires négatifs. Voilà, c'est un peu ça qu'on a derrière. Et j'aurais pu l'appeler le hip-hop, non pas symphonique, mais harmonique ou comme vous voulez. Mais c'est vraiment derrière ça la puissance de l'image.
Vous, Bruno Laforesterie, avec le hip-hop citoyen, vous lancez en 2002 un projet de revalorisation vraiment de la culture hip-hop sur la capitale. Ça a toujours été une cause personnelle, cette valorisation culturelle?
C'est vrai que moi j'ai eu un parcours dans le domaine des médias et dans le hip-hop et dans le rap qui est un parcours historique qui est presque 30 ans aujourd'hui parce que j'ai commencé à Génération en 93-94 et donc j'ai pu accompagner le projet de Génération qui était une radio naissante à l'époque et qui a vraiment fait et accompagné la naissance du rap en France et particulièrement à Paris. Et après le premier succès, notamment les succès commerciaux, effectivement, on s'est dit à l'époque, en 2002, qu'on avait aussi un rôle dans une période politique qui était déjà charnière à l'époque et que ce qui était porté aussi par les artistes qu'on représentait, on devait le porter différemment. Et de là, de cette idée, est né justement Hip Hop Citoyen pour que fondamentalement déjà, et là on se projette en 2002, que tous les lieux, que la culture hip-hop puisse être partout, ce qui n'était pas le cas. Hein. Il y a 20 ans à Paris, il y avait très peu de salles de concert, il y en avait presque une, l'Élysée Montmartre, qui acceptait de faire du rap. Ça peut paraître délirant aujourd'hui pour la génération qui a une vingtaine d'années, qui voit des Bercy toute la journée, mais quand on se projette il y a 20 ans, il y avait une salle de concert à Paris qui acceptait les rappeurs. Donc on a quand même fait un énorme progrès, et moi j'étais à cette époque pour justement permettre d'ouvrir les lieux, de considérer que les chances devaient se faire, et aussi d'une manière tentant prendre la parole sur des sujets importants. Voilà. Donc c'est, et l'hip-hop symphonique, l'hip-hop c'est un peu une histoire de ma vie aussi culturelle, c'est des rencontres humaines, la bonne connaissance des artistes, et de leurs valeurs, et de leur envie de faire des choses, et c'est une continuité naturelle.
Paris réussi, et donc on peut se dire rendez-vous l'année prochaine, je pense, pour une édition numéro 9.
On se le dit à chaque fin d'édition, on se dit est-ce qu'on recommence ou pas,
et la question se pose.
Mais en fait, dans tout projet créatif, je pense qu'il faut se poser la question en permanence. Parce que si vous pensez que vous revenez, c'est comme un artiste qui fait un album, s'il pense qu'il va revenir avec un album suivant, non. Il faut qu'à chaque fois, on se dise que ça vaut le coup, qu'on est heureux, qu'on est fier, et que ça donne l'envie de continuer. Moi, je ne me suis jamais posé la question de dire quoi qu'il arrive, on se donne rendez-vous dans 10 ans, dans 5 ans. Non, il y a l'envie, je pense qu'on est vraiment utile et on est unique, je pense, en France et même dans le monde. Je crois que c'est une expérience assez unique. Donc c'est important pour nous, chaque année, de nous remettre en question.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Bruno Laforesterie, donc l'initiateur de ce projet hip-hop symphonique. Je vous emmène maintenant au théâtre. On découvre les pièces actuellement à l'affiche. Une sortie sympa et qui change pour le week-end. C'est notre petit rituel depuis le début de cette saison. Je vous présente les pièces de théâtre actuellement à l'affiche dans les salles parisiennes à la rencontre des comédiens et des auteurs des œuvres. Cette semaine, dans notre sortie théâtre, on s'intéresse à Chers parents, nominée meilleure comédie 2022 et jouée au Théâtre de Paris. Elle est signée Emmanuel Patron et Armel Patron. Pierre, Jules et Louise Gauthier s'adorent et aiment profondément leurs parents. Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir les rejoindre d'urgence, ils ont quelque chose de très important à leur annoncer. Les trois enfants bouleversés se précipitent, craignant le pire. Mais le pire n'a pas eu lieu, du moins pas tout de suite. Et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclats la belle unité familiale. Faisant ardemment souhaiter aux trois rejetons ce qu'ils redoutent le plus en arrivant quelques heures plus tôt, Chers parents est donc une comédie qui parle de la famille, d'amour, d'argent, de la place de chacun dans une fratrie, et Dieu sait que parfois c'est compliqué, de l'impermanence également des sentiments, de la part d'ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants. Chers parents, une pièce jouée au Théâtre de Paris jusqu'au 31 décembre 2023. Restez avec nous dans quelques instants, nous recevons Thury, un artiste bourré de talent et proche des gens. Il nous a accordé une interview exclusive à l'occasion du hip-hop symphonique. Vous pourrez aussi retrouver cette rencontre sur Spotify en recherchant le nom du podcast qui s'intitule très simplement La Rencontre. Et dans ce podcast La Rencontre sur Spotify, il y a toutes les autres rencontres également de l'émission qu'on a pu faire, notamment avec Boom, notamment avec Sarah Costa. Voilà, il y en a plein. Allez les voir, allez sur Spotify et découvrez tous ces artistes qui sont vraiment très talentueux. Dans la prochaine demi-heure, je vous donne aussi des idées de sortie, que ce soit pour demain, pour ce soir. A tout de suite, on écoute Flashback de Favé sur Radio Campus Paris en feat avec Gazo.
Ouais, sur elle j'ai un pacte, dans son crâne on est deux. Ma quiche taille est compacte et j'ai aucun billet bleu.
J'ai des flashbacks, tout de tard la night. Des flashbacks, tout de quand on ride. J'sais même pas si je serai là demain, mais j'sais que demain j'ai des sous à faire. Elle ressasse tout mon passé, voit que du sale donc j'sais qu'elle a le démon. Et quand je vois la roue qui m'est tracée, dans ces moments là je vois la lumière. Les problèmes je les accumule, j'ai poids sur le dos mais je sais qu'il faut témoin. En petite tenue, ton joli collant. Défile au télo, défile en talon.
Ok, je suis high, j'ai bu, j'arrache le collant. Beuh dans les poumons, je vois sur elle, j'ai un pacte. Dans son crâne, on est deux. Ma quiche taille compacte, j'ai aucun billet bleu.
J'ai des flashbacks, nous deux tard la night. Des flashbacks, nous deux quand on ride.
Sur elle j'ai un pacte, dans son crâne on est deux. Ma quiche taille est compacte, j'ai aucun billet bleu.
J'ai des flashbacks, nous deux tard la night. Des flashbacks, nous deux quand on ride.
T'es pas mon essentiel, je t'ai fait du sale ma belle. Jamais tu pourras me rendre amoureux, et c'est pas la peine. Je meurs couleur ébène, autant que quand je touche ma paye. Et pour qu'elle se rappelle, elle repart avec une attelle.
Je le ferai si je le promets, baby, je peux plus ralentir. Je peux plus ralentir, je peux plus ralentir.
Okay, je suis broliqué dans l'appartement, mais je peux pas mentir. Mais je peux pas mentir, mais je peux pas mentir.
En petite tenue, ton joli collant. Défile au télo, défile en talon.
Ok, je suis high, j'ai bu, j'arrache le collant. Beuh dans les poumons, je vois sur elle, j'ai un pacte. Dans son crâne, on est deux. Ma quiche taille compacte, j'ai aucun billet bleu.
J'ai des flashbacks, nous deux tard la night. Des flashbacks, nous deux quand on ride.
Ouais, sur elle j'ai un pacte, dans son crâne on est deux. Ma quiche taille est compacte, j'ai aucun billet bleu.
J'ai des flashbacks, nous deux tard la night. Des flashbacks, nous deux quand on ride.
C'était Flashback sur Radio Campus Paris. Je suis très heureux car Thury est avec nous aujourd'hui dans La Rencontre. Bonjour Thury.
Salut.
Merci pour cette rencontre. On se retrouve dans un lieu bien spécial, l'auditorium de Radio France, à l'occasion du hip-hop symphonique. C'est la première fois pour toi. Est-ce que tu appréhendes un petit peu ?
Non, j'ai l'impression que je vais devoir payer un loyer ici parce que là, ce mois dernier, j'ai dû venir une dizaine de fois chez Radio France et je suis toujours bien accueilli. Alors non, malheureusement, je ne peux même pas te communiquer un stress parce qu'il n'y en a pas, je suis toujours bien accueilli ici.
Pendant longtemps, tu t'es produit accompagné d'un live band, mais est-ce que tu as déjà eu l'occasion de partager la scène avec un orchestre aussi grand que celui de ce soir, l'Orchestre Philharmonique de Radio France ?
Absolument pas, absolument pas. Là, je suis dans une config jumelle des œuvres de mes héros, genre Jay-Z, il a déjà fait un truc comme ça, Kanye West, il a déjà fait un truc comme ça. Le fait de pouvoir le faire aujourd'hui, c'est un petit peu le teaser de ce dont j'ai envie, en fait, pour la suite de ma carrière. Et je suis trop content d'avoir la chance de participer au hip-hop symphonique. C'est trop légendaire, genre.
Est-ce que tu penses avoir l'occasion de réitérer ce genre d'expérience ? Est-ce que c'est un projet futur pour toi de remonter sur scène accompagné d'un vrai orchestre ?
Ouais, carrément. Moi, j'aimerais défendre tout un album, tu vois, avec ces sonorités-là. Je t'ai parlé d'anciens héros, mais des gens que je considère comme des concurrents directs, comme Kendrick Lamar ou Little Sims, qui est une rappeuse british. Flirte déjà avec ses sonorités, se produit sur scène avec ces sonorités-là. Et moi, je me dis, mais pourquoi pas un petit mec de Boulogne ? Ça va le faire.
Petit maître de Boulogne ?
Oui, un petit mec de Boulogne qui est capable vraiment de cohabiter avec la grande orchestration. Moi, je ne le dirais pas de moi-même, mais je ne sais pas si je suis humble. Je sais que je respecte les gens et que j'offre toujours une première chance, tu vois. C'est comme ça que j'ai été éduqué, donc je le fais sans forcer, tu vois. Il y a des hugs, tout le monde, j'essaie de voir tous les musiciens, j'essaie de voir ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, les mecs en régie, les mecs qui font la sécurité, en fait, tu vois, on parle de grande orchestration, mais c'est plus que la musique. Je sais que c'est des tonnes d'heures de travail et que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Alors c'est la moindre des choses de saluer les gens ou d'avoir une attitude respectueuse.
Le hip-hop symphonique est un moment vraiment à part, tant pour les artistes sur scène que pour le public. C'est une vraie pause dans le temps. Comment est-ce qu'on s'y prépare à ça ?
Ben, tu vois, par exemple, tu disais, est-ce que je suis toujours humble ? Eh ben, la prochaine réponse, eh ben, elle sonne pas si humble que ça, parce que j'ai l'impression d'être prêt depuis que je suis né, en réalité, pour ce genre de rendez-vous. Tu me dis Stade de France après-demain, genre je serais un petit peu en panique, parce que je vais me demander ce que je vais pouvoir défendre, mais par contre, je serais très très content d'y aller et fougueux, quoi. C'est un truc que je perds pas. Et on confond très souvent l'ambition et je dirais pas l'égocentrisme, mais on est dans un pays où il faut pas trop afficher ses ambitions, sinon on a le rôle du parfait connard, tu vois. Moi je pense que je les affiche mais avec un sourire et que ça passe mieux du coup.
Je vais essayer de mieux te connaître, mieux comprendre ton processus de création. Quels sont les courants musicaux qui t'inspirent ?
En fait, moi, je transpire carrément les influences et les disques qui ont tourné chez moi. Les disques de ma mère sont les premières influences. J'ai été bercé à Queen, Michael Jackson, Prince. Après, il y a eu mes propres influences qui sont entrées en jeu. Lauryn Hill, Drake, Kendrick, Kanye. Je viens de Boulogne-Billancourt, donc forcément Booba, Salif, Zoxy, Danny Dan. J'ai été à bonne école, mais j'ai écouté tellement de choses, que ça soit du rock, du jazz. Et bizarrement, le gospel n'était pas très très présent, tu vois, chez moi. Mais comme le gospel, c'est une musique immaculée, pure. J'ai choisi ce process sur certains titres pour faire passer de belles émotions, en tout cas les émotions du cœur, parce que je savais que c'était la musique qui permettait de ne pas mentir et qui m'obligeait à rester dans cette introspection, qui m'obligeait à raconter ma vie sans artifice.
Ça, l'introspection, on va en reparler après avec tes albums. Toi, parmi tous les artistes qui t'ont inspiré, tu en as énoncé quelques-uns, quel est celui qui t'a le plus marqué ?
En réalité, ça serait une petite fusion quand même. Entre, je dirais Gainsbrel. Tu vois, je dirais Gainsbrel. Un mélange de Gainsbourg et de Brel, parce que Gainsbar pour, tu sais, ce truc très, très osé, le panache et l'insolence, parce que ma poésie, et quelquefois insolente et quelquefois violente. Et je retrouve ça un petit peu chez Gainsbar et Brel, parce que pour l'importance qu'il a accordée aux mots et le respect qu'il avait des planches. Tu vois, une prestation de Brel, aujourd'hui, tu la regardes en 2023, tu te fais gifler comme si c'était un concert de, je sais pas moi, Doja Cat.
T'es allé voir la maison de Gainsbourg ou pas ?
Alors, c'est fou, parce qu'on m'en a parlé hier. Il faut savoir que j'ai une petite collection de livres sur Gainsbar. Et non, pas encore. Il paraît qu'il y a sa fille qui raconte l'histoire de son père. Donc, j'ai hâte d'y aller. Mais je viens de faire une date à Clermont-Ferrand, dans la rue Serge Gainsbourg. Et ma loge était aux couleurs de Gainsbourg. Les murs, il y avait des fresques de Gainsbourg, et je peux te promettre que ça m'a galvanisé. Genre, j'avais l'impression de mieux connaître l'artiste. Ok, on peut ne pas aimer l'homme, mais l'artiste force le respect.
C'était la première partie de La Rencontre avec Thury. Rendez-vous pour la suite juste après son titre, La Bande Heureux.
Il y a tant de vie dans ta maison, j'aimerais que tes mains sèchent mes yeux, mais tu es parti. Là où on dort heureux, j'essaye de me dire que là-bas y a du beau monde et que tu ris un peu. Comment t'es parti? là où on dort heureux. Si tu pouvais revenir une heure ou te prouver au ciel qu'il a tort de t'arracher à moi, de t'arracher à moi. Je te cherche dans la nuit, mais les fantômes de la ville chantent si fort. Depuis tu n'es plus là, depuis tu n'es plus là. Il y a tant de vie dans ta maison, j'aimerais que tes mains sèchent mes yeux. Mais tu es parti, là où on dort heureux. J'essaye de me dire que là-bas y a du beau monde et que tu ris un peu. Comment t'es parti, là où on dort heureux. Si tu pouvais revenir une heure ou te prouver au ciel qu'il a tort de t'arracher à moi, de t'arracher à moi. Je te cherche dans la nuit, mais les fantômes de la ville chantent si fort. Depuis tu n'es plus là, depuis tu n'es plus là. Si j'attends que mes démons me délivrent, qui j'arrête leur doigt. Si je veux te revoir, si je veux te revoir. Parfois je retrouve sur le visage de mon fils un petit peu de toi. Vous avez le même regard, vous avez le même regard.
C'était Là où on dort heureux, donc de Thierry. Petite pensée à Thomas Kemar qui justement a choisi, puisque normalement c'est lui qui écrit la chronique musique, et lui du coup il a choisi ce titre pour aujourd'hui. On continue avec Thierry dans la seconde partie de la rencontre.
Un moment dans ta vie, tu n'as non pas laissé de côté la musique, mais je pense que tu l'as mise un petit peu au second plan. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'était vraiment une volonté de ta part ou pas?
Ouais, ça a été une volonté de ma part parce que j'étais une forme hybride entre l'éducateur spécialisé et le prof de musique. Et j'avais l'impression de sauver des gens qui en avaient besoin. Et je me suis rendu compte que durant les 8 ans où j'ai travaillé là-dedans, que ça allait beaucoup moins vite que 2 ans de musique. J'ai aidé beaucoup plus de gens et très rapidement avec ma musique. Donc le choix est vite fait.
Tu as ensuite sorti Bleu Gospel en 2021, un album qui se veut vraiment introspectif. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça d'ouvrir son cœur à la plume?
Absolument pas. C'est de l'art-thérapie. Il y a art, mais il y a thérapie aussi. Et je sais pas, pour les gens qui vont écouter ou lire cette interview, je pense qu'on va tous s'accorder comme les violons d'Issam Krimi pour dire que le truc le plus dur, c'est d'appeler, c'est de prendre le premier rendez-vous. Et donc Bleu Gospel, ça a été mon premier rendez-vous avec l'introspection, la première fois que je racontais ma vie. Donc non, c'est quand même quelque chose de difficile et de drainant.
Plus récemment, tu as sorti Papillon Monarque, un album récompensé par le prix Joséphine 2023, si je ne dis pas de bêtises. Le jury était présidé par Eddie Depreto. C'est une fierté de voir son travail remarqué et primé?
C'est une fierté, pas pour moi, parce que moi, au départ, quand je fais ça, c'est pas que je m'en fous un peu, mais je pensais déjà pas le gagner, ce truc-là. J'étais sûr de ne pas le gagner. Et ensuite, j'ai compris que la mission était plus grande que moi et que je représentais vraiment toute ma discipline, le courant rap, le courant hip-hop, et que c'était le moment de faire la paix, entre guillemets, avec les autres genres. Et moi, j'ai toujours été pour le mélange des styles, tu vois. Ma musique est trop hybride, il y a du rap, il y a de la variété, il y a de la pop, il y a du gospel, du R&B. Donc, je voulais faire ce bisou-là aux autres genres publiquement. Et avoir ce prix-là, ça m'a permis de le faire.
La musique de cet album est incroyable, elle est belle, elle est bercée par un rythme hip-hop, mais à la fois, aux limites, quand même du gospel ou encore du jazz parfois. Tu te livres dans cet album, qu'est-ce que tu souhaites faire passer à travers cette nouvelle création?
Alors, Papillon Monarque, je souhaite être leader par l'exemplarité, en montrant que c'est difficile d'être parfait, en fait c'est impossible. Et que exposer son flanc, exposer sa sensibilité, ses défauts, ça peut que aider à la déconstruction et du coup nous aider à évoluer. Tu vois, c'est Papillon Monarque, c'est embrasser vos différents traits de caractère et excusez-vous quand il faut s'excuser, mais soyez fiers quand il faut défendre une bannière. C'est aussi simple que ça.
Pour terminer, est-ce que tu as des projets en cours, des idées de duo ou des idées de single ?
J'ai plein d'idées, plein de projets qui sont en cours. Le label travaille bien, Foufoune Palace, Luigi travaille. Je travaille aussi, il y a des trucs en commun qui vont arriver. J'ai hâte juste que le public entende de nouvelles sonorités, de nouvelles facettes de ma personnalité et continue à suivre l'histoire de près.
Mille merci déjà pour le temps que tu m'as accordé. Un mille merci pour ton honnêteté et je pense ta sensibilité qui est incroyable et je t'en prie, ne la perds pas. Et puis surtout, bon courage pour ce soir.
Je vais tout faire pour et j'espère que vous allez vous amuser autant que moi ce soir.
C'est sûr.
Okay, merci beaucoup pour cette interview, c'était hyper agréable.
Vous pourrez retrouver cette rencontre avec Turi sur Spotify et c'est pas la seule interview que vous pourrez retrouver, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vous invite même à retrouver toutes les autres interviews qu'on a eu l'occasion de faire en recherchant le nom du podcast qui s'intitule très simplement La Rencontre. On s'écoute tout de suite sur Radio Campus Paris, Ro Alejandro, Bizarrap, Baby Hello.
Baby, vamos a buscar una excusa para vernos. Solo tienes que indicarme la hora que el lugar yo lo tengo. Se mudó cerca de mí, llego en 10. Ya no hace falta un GPS. Me sale de memoria la ruta de su cuerpo. Baby, hello. Fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estabas sola y que querías bellaquear y prender. Pending. Baby, no me dejes en el waiting. No. Vamos a echarle otro polvo friendly. En el asiento atrás del Bentley. Le gusta el tanning, el training. Skinny, fancy. Nada fake, su cuerpo authentic. Y ya casi toca los 30. Y si nos juntamos, somos cafeína con mate. Le edita lo medio a que mate. La tengo haciendo yoga y pilates. Ay, trae pa' fumar, sí. Si quiero que te rebate. Nos fuimos al garden, no pidas que pare. Cuando la cama te mate. En el DNA, ya no frena cuando me termina. Mi Selena, cómo se menea. Condena, brinca morena. Quiere que la hecha entrona. Estoy pa' ti, pide mamá. Lo que te tira no está en nada. No está en nada. Baby, hello. Fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel. Baby, hello. Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah.
Soñaba.
Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah.
Okay, no.
Imagina un Met Gala en la sala, mi invitada. El tema es que tu modelo sin nada.
Nuestro location no lo tiene Google Maps. Fuck LA, estamos en Carolina, aquí no hay pubs. Let's talk, more fuck. Esa nalga, make them clap. Volvamos a chingar, después del nap. Rap por ti, como esta pista de Bizarrap. It's a rap, yeah. Alcohol y molly en el DNA, ya no frena cuando me termina. Mi Selena, cómo se menea, condena, brinca morena.
Quiero que la hecha entrena, estoy pa' ti, pide mamá.
Lo que te tira no está en na,
no está en na.
Baby, hello, fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estabas sola y que querías bellaquear y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel.
Baby, hello.
Oh,
Alejandro Bizarrap sur Radio Campus Paris. Il est 18h42, nous sommes le 11 novembre. On commémore aujourd'hui la signature de l'armistice de 1918. Tout de suite, voici la chronique Sortir à Paris. À Paris, comme chaque semaine, de nombreuses sorties s'offrent à vous. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau spectacle du cirque d'hiver Bouglione. Michel Palmer, alias Monsieur Loyal, se demande dans quel délire les artistes de la nouvelle saison vont bien pouvoir l'entraîner. 2 heures de spectacle avec des numéros vertigineux, du rire, mais aussi de l'émotion. Un combo parfait pour sortir ce week-end. On a pu rencontrer justement Joseph Bouglione, qui porte ce show de tout son cœur. Voici son interview.
Joseph Bouglione, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes artiste, régisseur, musicien, metteur en scène. On est sur tous les fronts quand on travaille chez les Bouglione.
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'au cirque, on est souvent sur tous les fronts. Après, il y a certaines personnes qui ne le font pas. Hein. Ça dépend de l'amour qu'on a pour le cirque. Je connais beaucoup de personnes qui font seulement un seul travail dans le cirque. Après, il y en a qui en font beaucoup, qui en font plus. Mais tout ça dépend de comment on se sent et si vraiment on aime ça et si vraiment on veut le faire à fond. Mais c'est vrai qu'au cirque, en général, tout le monde travaille beaucoup et surtout quand on dirige un spectacle. Pour que le spectacle soit bon, ce n'est pas juste le spectacle, ce qui se passe dans la piste. Pour que le spectacle soit à la hauteur, il faut que tout ce qu'il y a autour fonctionne. Et c'est grâce à ça que je peux fonctionner dans la piste. Donc je m'occupe des éclairages, de l'orchestre, de l'entretien, de plein de choses. Tout ce qui va m'apporter le succès du spectacle, c'est vraiment, je le répète, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est une équipe.
C'est tout récent sur la piste du cerf d'hiver Bouglione. Le nouveau spectacle Délire propose aux petits et grands des numéros à couper le souffle. Quel était le point d'entrée pour ce nouveau spectacle? Quelle a été la source d'inspiration?
Eh bien écoutez, à chaque fois que je monte un spectacle, c'est-à-dire les artistes sont engagés 2 ou 3 ans à l'avance, car à savoir qu'en hiver, aux périodes de fêtes, il y a beaucoup de spectacles, de cirques ou de variétés dans le monde entier, donc il faut réserver les artistes avant, car nous c'est du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, donc il faut vraiment anticiper et prévoir. Et chaque année, le spectacle que je monte, j'essaie l'année suivante de ne pas faire le même spectacle et d'essayer d'apporter des nouveautés. Donc c'est pas facile parce qu'il faut se remettre en question. Il y a les costumes, il y a la musique, les transitions, enfin, il y a un tas de choses. Et surtout, il faut éviter de se copier, de ne pas faire le même spectacle. Et à chaque fois, j'ai toujours très très peur pendant un mois avant l'arrivée des artistes. Je me dis, est-ce que ça va être aussi bien? Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va pas être en dessous? J'ai toujours, et finalement, bon, les numéros qui sont engagés sont au même niveau que l'année précédente. Donc c'est ça qui me rassure après, pendant les répétitions.
Mais après tant d'expériences et tant d'années, il y a toujours un stress, on se pose toujours la question. C'est ça qui fait justement le secret peut-être un peu de la réussite, c'est toujours se remettre en question.
Toujours, j'ai toujours le trac, même que je ne suis pas en piste. Oui, c'est, j'ai autant le stress et de trac qu'un artiste qui va rentrer en piste, parce que je suis responsable du spectacle, je suis responsable de plus de 50 personnes qui travaillent sur la piste, je suis responsable du succès du spectacle, je suis responsable de tout. Donc si le spectacle ne marche pas, si, entre parenthèses, ce fameux mot que tout le monde dit dans le métier, si le spectacle n'est pas bon, le public ne vient pas. Donc là, il faut absolument que le public vienne et grâce à tous les efforts de tout le monde, hein, le spectacle fonctionne bien et le public vient. Donc c'est ça le plus important.
Et c'est une réussite. Délire, c'est aussi un spectacle qui se veut cosmopolite. On retrouve par exemple Glenn Folco, jongleur italien, ou encore Matute, clown chilien. C'est un challenge de monter un show avec des cultures qui diffèrent.
Non, c'est pas un challenge, mais au contraire, ça emmène plein de choses différentes. Hein. On a un Chilien, on a des Cubains, on a un Italien. On n'a qu'une seule Française dans le spectacle. Enfin, deux, avec ma sœur qui travaille avec les chevaux. On a des Russes, on a des Ukrainiens. C'est vraiment très international. Mais c'est très, très bien parce que ça emmène plein de choses. Hein.
Totalement. Vous, on le disait tout à l'heure, vous étiez aussi artiste. Sur piste, vous êtes à quel numéro?
Alors, moi, cette année, je ne travaille pas en piste, mais je travaille avec les chevaux normalement. Là, c'est ma sœur qui le fait. Je n'ai pas trop le temps d'être en piste parce que je dois être devant la piste et derrière. Mais disons que pendant des années, j'ai travaillé sur piste. Je faisais un numéro sur un fil. Hein, j'étais acrobate et je travaillais avec les chevaux. Donc, mais là, bon, je préfère je laisse la place aux artistes maintenant.
Ça vous manque pas?
Non, ça ne me manque pas du tout. Non, le fait de ne plus travailler en piste ne me manque pas du tout. Je pourrais à chaque spectacle prendre des chevaux ou faire un numéro, mais non, j'ai plus trop envie. Je préfère me consacrer à la direction artistique.
Et c'est un très beau métier également. Les premiers spectacles de la famille Bouglione mettaient en scène des fauves. Des générations plus tard, les spectacles évoluent avec leur époque. Et là, on est dans un lieu magique, puisqu'on le voit en face de nous, je le dis pour les auditeurs, tous les spectacles, toutes les affiches des spectacles sont exposées ici dans cette pièce. Défis dingues ou encore fantaisie comme parmi les derniers proposés. Ce n'est pas trop difficile de se réinventer chaque année tout en gardant l'âme du cirque ?
Il faut se réinventer, il faut toujours apporter des nouveautés. C'est pour ça que je voyage beaucoup, un peu moins maintenant car avec Internet on reçoit les liens des numéros, mais je me déplace quand même. Je suis souvent invité dans les festivals Monte-Carlo et puis d'autres festivals pour pouvoir justement voir des numéros en tant que jury. Donc ça me permet de prendre contact avec les artistes et de rechercher... le numéro qui fera la différence et qui va apporter le rythme du spectacle. Vous savez, un spectacle de cirque, c'est une succession de numéros, mais ce qui est très important, c'est les transitions. Il faut que ça aille très vite, que l'orchestre suive, que la lumière suive, que le rideau s'ouvre au moment, que toutes les personnes qui sont dans l'ombre fassent leur travail d'une rapidité pour que ça donne l'impression que c'est un film qui défile devant vous.
Totalement.
Et puis, il y a aussi cette salle de cirque d'hiver qui est absolument extraordinaire. C'est vrai que il faut que le spectacle soit à la hauteur du lieu. Souvent, on me dit « Ah, c'est facile pour Joseph, il a le cirque d'hiver. » Oui, mais il faut faire un spectacle qui tient la route. On ne peut pas faire n'importe quoi au cirque d'hiver. Et nous sommes à Paris, le public parisien est très exigeant. Et en plus, il y a beaucoup de spectacles à Paris. On n'est pas à Paris, ce n'est pas Bordeaux, Marseille, où il y a très peu de choses. Il y a beaucoup, mais à Paris, il y a beaucoup de spectacles pour enfants. Il y a beaucoup de cirques aussi qui viennent, qui sont là. Donc, il faut vraiment se démarquer et être au-dessus de tout le monde pour essayer de... Et puis nous, c'est 5 mois, ce n'est pas juste 15 jours.
Tout de suite, vous donniez l'importance à ceux qui travaillent dans l'ombre du spectacle. Même Lio, chanteuse, disait « c'est vraiment la magie du spectacle, c'est ça, c'est au moment où la chanteuse lève la main en haut et il y aura pile cette lumière qui va arriver sur la main au moment-là, c'est vraiment la méticulosité qui donne aussi toute son importance au spectacle. » Et c'est vrai, vous avez entièrement raison. Illustrer les numéros et accompagner chaque artiste avec une palette infinie de tempo, c'est le rôle de l'orchestre du cirque d'hiver Bouglione. Il permet d'ajouter une dimension tout autre au spectacle et de transmettre des émotions sans artifice aux spectateurs. Ça ajoute une difficulté supplémentaire lors de l'élaboration du show ou au contraire, permet-il un ajustement parfait avec les numéros ?
Non, c'est ce qui fait tout le spectacle, à savoir que les lumières et l'orchestre, c'est 50% du spectacle. Alors, on travaille beaucoup à l'avance, je suis musicien moi-même, donc ça me permet d'avoir ce langage musical avec l'orchestre. Je joue d'ailleurs pendant le spectacle à certains moments. Les écritures du spectacle sont faites déjà 6 mois à l'avance. On a toutes les vidéos des numéros et la musique qui ne nous plaît pas ou qui est mal écrite, on refait tout. Alors, il y a un orchestre de 10 musiciens, on fait des séquences en studio et des séquences enregistrées pour ajouter des chœurs, pour que la chanteuse puisse chanter, pour que ça fasse beaucoup plus gros. Et puis, il y a des séquences avec des violons, avec des cuivres aussi, pour certains morceaux, pas pour le spectacle. Pour certains morceaux, on gonfle l'orchestre avec des séquences, mais l'orchestre joue tout le spectacle en live. Il n'y a pas de bande, il n'y a pas de CD, c'est vraiment... Mais il y a un gros travail d'écriture... musical, c'est vraiment un très gros travail. C'est presque ça le plus gros travail, mais bon, grâce à l'orchestre qu'il y a ici et le chef d'orchestre, Pierre Pichot, on arrive à faire un bon travail.
Je prie pour que jamais l'orchestre disparaisse, parce que franchement, je pense, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, et j'imagine qu'on vous l'a déjà dit, c'est pour moi l'une des choses les plus importantes qui permettent de maintenir une âme du cirque incroyable et qui permettent d'avoir une valeur ajoutée pour le cirque Bouglione.
Absolument, il faut que, c'est évident, un orchestre doit faire partie du spectacle. Nous, on a la chance d'être à Paris, d'avoir des très très bons musiciens. On a aussi la chance de pouvoir se permettre d'avoir un orchestre. C'est pas tout le monde qui peut avoir un orchestre de 10 musiciens et de faire tous les arrangements pour tout le spectacle. Donc ça, il faut que l'orchestre reste. Je pense que tant qu'il y aura du cirque, il y aura un orchestre.
Merci beaucoup.
Merci.
Parmi tous les numéros de ce nouveau spectacle Délire, on retrouve par exemple Glenn Folco, le jongleur italien de folie, ou encore Regina Bouglione, la cavalière émérite. Aujourd'hui, on rencontre Cassio Di Frin, le gracieux groom qui vous transporte dans l'univers feutré d'un palace.
Cassio Di Frin, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup pour l'interview. Vous étiez acrobate et danseuse au Crazy Horse. On vous retrouve aujourd'hui sur la piste du cirque d'hiver Bouglione. C'est un accomplissement pour vous ?
Oui, oui, parce que pour moi, c'était un rêve de participer à un spectacle de cirque. Et voilà, mon rêve s'accomplit.
Depuis toute jeune fille ?
Oui, oui, oui. Mes parents m'ont emmené voir un cirque quand j'étais toute petite. Et j'ai adoré tout ce qui était aérien, donc trapèze et tout ça. Et du coup, bah, 30 ans après, je réalise ce rêve.
Et vous êtes sur scène et vous nous proposez un show hors norme. Vous êtes donc à l'affiche d'un numéro aérien, et vous le dites tout de suite, très poétique pour ce nouveau spectacle Délire. C'est beaucoup de préparation et de travail pour arriver à un rendu si soigné.
Oui, beaucoup d'heures d'entraînement, de conditions physiques aussi pour pouvoir avoir le cardio et la force aussi et la flexibilité.
Ça vous manque pas trop le Crazy Horse ?
Ben, pour tout vous dire, je continue quand même un petit peu à côté.
Pour un artiste, ces représentations sont un moment d'expression personnelle. Quelles émotions ou quels messages vous souhaitez faire passer à travers votre numéro ?
Je souhaite passer un message que tout le monde en fait peut avoir ce petit moment à eux de brillance entre guillemets. En fait, mon numéro représente un groom. Donc, je suis dans un hôtel et je rêve en fait d'être artiste. Et sur le coup, je suis entourée de mes bagages et tout ça, et je me dis que non, en fait, je dois travailler. Et tout à coup, l'hôtel carte commence à voler. Et là, je me retourne et je me dis, ok, c'est ma chance à moi. Donc voilà, c'est pour faire vraiment partager ce moment à quiconque. Quiconque peut avoir un rêve et le réaliser. Donc let's go, faut pas lâcher ses rêves.
C'est vous qui l'avez imaginé de A à Z, le numéro ?
Non, pas du tout, c'est Masha Taryantieva. Elle est russe et je l'ai rencontrée en Australie. Elle m'a appris son numéro et voilà. Maintenant, je fais son numéro.
Et vous voulez de vos propres ailes. En off, vous me disiez tout de suite que parfois pour un artiste, c'est plus facile de s'exprimer avec le corps. C'est vrai ? C'est votre cas ?
Oui, c'est mon cas. Tout dépend quel artiste. Les chanteurs s'expriment très bien comme avec leur voix. Mais pour ma part, c'est vraiment une expression corporelle. Plus qu'oral, donc j'avais du mal tout à l'heure à vous décrire ce que je ressentais pendant le numéro, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut venir me voir au Cirque d'Hiver.
Totalement. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous inspirent ?
Tous les artistes de cette saison au Cirque d'Hiver, Bouglione m'inspirent. Vraiment, ils sont tous géniaux. Surtout, mon petit coup de cœur, c'est les straps. Un autre numéro aérien qui sont vraiment incroyables. Donc voilà, je vous souhaite de venir les découvrir sur scène.
Vous avez un parcours remarquable. Quels sont vos rêves aujourd'hui ? Quel futur voyez-vous pour Cassio Diffrin ?
J'ai créé un nouveau numéro que je n'ai pas encore sorti, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'appartient. Donc mon rêve, c'est de performer avec ce nouveau numéro et ensuite avoir une belle fin de carrière pour pouvoir me projeter sur d'autres projets que j'ai déjà en cours.
On peut en savoir un petit peu plus sur ce nouveau numéro ?
Oui, c'est un numéro qui va rester au sol cette fois-ci, mais toujours avec de la contorsion et de la danse, mais je ne peux pas vous en dire plus.
Il faudra venir vous voir en tout cas. Mille merci pour cet entretien et je vous souhaite plein de succès pour votre futur.
Merci.
Délire, le nouveau spectacle actuellement à l'affiche du Cirque d'Hiver Bouglione. Tout de suite, on s'écoute Years and Years de King sur Radio Campus Paris. Petit clin d'œil à Romane, ma collègue, avec qui on se disait, punaise, elle est bien cette musique quand même.
take that test. All courage to your chest. Don't wanna wait for you. Don't wanna have to lose all that I've compromised to feel another high. I've got to keep it down tonight. And oh, I was a king under your control. Oh, I wanna feel like you've let me go. I had to break myself to carry on. And take this from me tonight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh,
Years and Years King sur Radio Campus Paris. L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à Maxime à la réalisation aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre l'actu de Radio Campus Paris sur de Paris Culture sur Radio Campus Paris sur les réseaux sociaux, sur Instagram Quentin-du-bas Perky, sur TikTok Perky Quentin. On se retrouve dans deux semaines, samedi 25 novembre à 18h, et je l'annonce, ce sera Marco Ferreira qui sera dans la rencontre. Il est talentueux, il est charmant, et ce sera sur Radio Campus Paris. Prenez soin de vous. Bye bye. We'll be right back.